Chapitre 38. Paysage d'écume. Le dernier animal qu'il vit avant de quitter les océans d'Europe fut de loin le plus grand. On aurait dit un de ces arbres, les banians, qui poussent sous les tropiques terrestres et dont les troncs multiples permettent à un seul plan de créer une petite forêt couvrant parfois plusieurs centaines de mètres carrés. Mais celui-ci marchait, ayant apparemment entrepris la traversée d'une oasis à une autre. Si ce n'était pas une créature analogue à celle qui avait détruit Tienne, elle était en tout cas d'une espèce très voisine. Maintenant, il avait appris tout ce dont il avait besoin, ou plutôt ce qu'ils avaient besoin de savoir. Il lui restait une lune à visiter. Quelques secondes plus tard, il contemplait le paysage enflammé d'Io. C'était ce qu'il avait prévu. Il y avait abondance d'énergie et de nourriture, mais les temps n'étaient pas mûrs pour leur union. Les premiers pas du chemin de la vie avaient contourné les lacs de soufre, les moins brûlants, mais toutes ces tentatives courageuses et prématurées avaient été renvoyées au chaudron primordial avant d'avoir atteint un quelconque degré d'organisation. Ce ne serait que dans plusieurs millions d'années, quand les marées gravifiques alimentant les fournaises d'Io auraient perdu de leur puissance, que les biologistes trouveraient sur ce monde incandescent de quoi les intéresser. Il passa très peu de temps sur Io, et ne s'arrêta même pas aux petites lunes intérieures qui frôlaient les pâles anneaux de Jupiter, ombre fantomatique de ceux qui faisaient la gloire de Saturne. Devant lui s'étalait la planète géante qu'il allait explorer comme nul homme ne l'avait fait ni ne le ferait jamais. Les filaments de force magnétique longs d'un million de kilomètres, les brutales explosions d'ondes radio, les geysers de plasma plus grands que la Terre elle-même, tout lui apparaissait aussi clairement que les nuages qui entouraient le globe d'une écharpe aux multiples nuances. Il comprenait les rapports complexes qui les unissaient et vit que Jupiter était plus merveilleux encore qu'on ne l'avait cru. Même alors qu'il plongeait au cœur de la grande tache rouge, dans les hurlements de l'orage, passant au milieu des éclairs gigantesques d'une tempête de la taille d'un continent, il comprit pourquoi la tache se maintenait depuis des siècles, alors qu'elle était composée de gaz beaucoup moins denses que ceux des cyclones terrestres. Le cri aigu de la bourrasque d'hydrogène faiblit à mesure qu'il s'enfonçait dans des régions plus calmes, où il tombait des averses de flocons cireux, dont certains déjà s'agglutinaient pour former des montagnes impalpables de mousse hydrocarbonée, résidus des couches supérieures. La chaleur était déjà suffisante pour qu'il y ait de l'eau sous forme liquide, mais il n'y avait pas trace d'océan. L'environnement gazeux n'aurait pas été assez consistant pour les retenir. Il descendit à travers différentes contrées nuageuses, jusqu'à entrer dans une région si limpide que même la vision humaine aurait pu couvrir 1000 kilomètres alentour. Ce n'était là qu'un remous secondaire du grand tourbillon qu'on appelle la grande tache rouge, mais il contenait un secret dont les humains se doutaient depuis longtemps sans avoir jamais pu le prouver. Au bas des montagnes de mousse qui dérivaient lentement, se trouvaient des myriades de nuages plus petits aux contours bien définis, ayant tous à peu près la même taille et ornés des mêmes motifs composés de taches rouges et brunes. Petits, ils ne l'étaient que par comparaison avec les proportions inhumaines de leur environnement, car le moindre d'entre eux aurait recouvert une ville de belle taille. Et ils étaient vivants, de toute évidence, se déplaçant lentement, mais délibérément sur les flancs des montagnes cyclopéennes, broutant leurs pentes comme des moutons colossaux. De plus, ils s'appelaient les uns les autres sur la fréquence métrique, leur voix radiophonique se distinguant faiblement mais clairement à travers le tonnerre électromagnétique incessant de Jupiter. Des sacs de gaz doués de vie, flottant dans l'étroit domaine qui séparait les hauteurs glacées des profondeurs brûlantes, étroit certes, mais infiniment plus vaste que la biosphère terrestre. Ils n'étaient pas seuls. Parmi eux, se déplaçant beaucoup plus vite, circulaient d'autres créatures si petites qu'il aurait été facile de les ignorer. Certaines ressemblaient de façon frappante à des avions de la Terre et avaient à peu près la même taille, vivantes elles aussi, des prédateurs peut-être, des parasites, voire des bergers. Tout un nouveau chapitre de l'évolution, aussi nouveau que celui qu'il avait aperçu sur Europe, se dévoilait à ses yeux. Des torpilles à réaction, comme les pieuvres des océans terrestres, poursuivaient et dévoraient les énormes sacs de gaz. Mais ces ballons n'étaient pas inoffensifs, et quelques-uns se défendaient en lançant des éclairs ou en agitant des tentacules, sortes de chaînes dentelées longues d'un kilomètre. il y avait d'autres formes encore plus bizarres, épuisant presque toutes les possibilités de la géométrie. D'étranges cerfs-volants translucides, des tétraèdres, des sphères, des polyèdres, des amas inextricables de rubans. C'était le plancton géant de l'atmosphère jovienne, fait pour flotter comme les fils de la Vierge dans les courants ascendants, vivre assez longtemps pour se reproduire, retomber ensuite dans les profondeurs et y être carbonisé, recyclé pour la nouvelle génération. Il explorait un monde plus de 100 fois plus grand que la Terre, rempli de merveilles innombrables, mais nulle part il ne vit trace d'intelligence. Les voix radiophoniques des grands ballons ne transmettaient que des messages élémentaires d'alarme ou de crainte. Même les chasseurs, dont on aurait pu croire qu'ils auraient atteint un plus haut degré d'organisation, n'étaient que des automates sans cervelle, comme les requins de la Terre. Malgré sa nouveauté, son immensité à couper le souffle, la biosphère de Jupiter était un monde fragile, un décor de brumes et de vapeurs, de fils soyeuses et délicats, de voiles arachnéens tissés par l'incessante neige pétrochimique créée par les éclairs de la haute atmosphère. Ces éléments étaient rarement plus consistants que des bulles de savon. Ses prédateurs les plus féroces auraient été mis en pièces par le plus faible des carnassiers terrestres. De même qu'Europe, mais à plus grande échelle, Jupiter était un cul-de-sac évolutif. La conscience n'y émergerait pas ou aboutirait bientôt à une impasse. La culture purement aérienne pourrait se développer, mais dans un environnement où les solides n'existaient quasiment pas et où le feu était impossible, elle n'atteindrait même pas le niveau de l'âge de pierre. Puis, alors qu'il planait au-dessus d'un cyclone à peine plus grand que l'Afrique, il prit de nouveau conscience de la présence qui le contrôlait et dont les humeurs ou les émotions filtrait dans son propre esprit sans qu'il puisse identifier une idée ou un concept spécifique. C'était comme s'il écoutait une discussion dans une langue inconnue, de l'autre côté d'une porte fermée, dont les accents étouffés exprimaient clairement la déception, l'incertitude, puis une détermination soudaine. Dans quel but, il n'aurait su le dire. Une fois de plus, il eut le sentiment d'être une sorte d'animal favori, capable de sentir les humeurs changeantes de son maître sans jamais les comprendre. Ensuite, sa laisse invisible le tira vers le centre de la planète, lui faisant traverser les nuages et descendre au-dessous du niveau où la vie était possible. Il fut bientôt hors de portée des derniers rayons du soleil lointain. La pression et la température augmentaient rapidement, dépassant le point d'ébullition de l'eau, et il franchit une couche de vapeur surchauffée. Jupiter était comme un oignon qui l'épluchait, une peau après l'autre, bien qu'il n'eût encore parcouru qu'une fraction de la distance jusqu'au centre. Sous la vapeur se trouvait une marmite de sorcière, un bouillon pétrochimique qui aurait suffi pour alimenter 1 million d'années tous les moteurs jamais construits par l'humanité, de plus en plus épais et denses, jusqu'à disparaître brusquement au bout de quelques kilomètres. La couche suivante, plus dense que n'importe quelle roche terrestre, tout en restant liquide, consistait en composés siliceux et carbonés d'une complexité qui aurait défié l'analyse des chimistes de la Terre pendant plusieurs générations. Les couches se succédaient pendant des milliers de kilomètres et la température montait régulièrement jusqu'à atteindre plusieurs milliers de degrés, tandis que la composition chimique se simplifiait. À mi-chemin du noyau, la température abolissait toute combinaison chimique. Tous les composés étaient réduits à leurs éléments de base. Venait ensuite un océan d'hydrogène, profond, mais pas de l'hydrogène tel qu'il aurait pu exister plus d'une fraction de seconde dans un laboratoire terrestre, un hydrogène soumis à une pression si énorme qu'il était devenu un métal. Il approchait du centre de la planète, mais Jupiter avait encore une surprise à lui réserver. L'épaisse coquille d'hydrogène métallique et néanmoins fluide prit fin sans transition. Il touchait enfin une surface solide, à 60 000 km de profondeur. Cela faisait des éternités que le carbone expulsé des réactions chimiques des régions supérieures descendait s'accumuler vers le centre du monde, où, sous une pression de plusieurs millions d'atmosphères, il s'était cristallisé et avait enfin donné, dernière plaisanterie de la nature, quelque chose d'extrêmement précieux aux yeux des terriens. Le centre de Jupiter, à jamais hors de portée des humains, était un diamant aussi grand que la Terre.